J'espère qu'il est vivant d'une façon pratique. Dieu, c'est un Dieu pratique. Et puis, il veut toucher nos cœurs, nos vies d'une façon pratique, d'une façon quotidienne, afin qu'on puisse se réjouir de cette grande victoire qu'il a vaincu la mort et le péché. Parce que c'est un message pour nous aussi, parce que nous avons aussi, par Christ, vaincu la mort et le péché. Amen. Et nous avons un espoir que j'appelle un espoir extrême. Un espoir à l'extrême. Et puis, alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une grande célébration. Je crois que c'est une des plus grandes fêtes de l'Église. On célèbre sa première venue lorsque Christ est devenu chair. Noël, c'est une grande célébration, mais aussi le fait que les morts et le troisième jour a ressuscité d'entre les morts, ça accomplit tout. Et c'est notre grand espoir. Et alors, on veut vraiment célébrer et honorer le Seigneur aujourd'hui pour qui il est. Et j'ai une longue lecture ce matin parce que j'ai cru que c'est important de lire le récit de la résurrection de Jésus-Christ dans Luc chapitre 24. Et alors, on va débuter avec ça. On va lire le chapitre 24 en son entier. Alors, si vous êtes prêts pour ne pas vous endormir, je vais vous inviter à vous lever. Et on va lire cette belle, bonne et victorieuse portion de la Bible ce matin, Luc chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais elles leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elles. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que des linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu, devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. » Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disait lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Que nous puissions louer et bénir notre Dieu ce matin pour qui il est et ce qu'il a accompli pour chacun de nous. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grande victoire. Alléluia. Que tu as vaincu la mort, que tu n'es plus dans le tombeau ce matin, que tu es ressuscité. Et c'est notre espoir absolu, notre espoir extrême ce matin, que nous allons aussi ressusciter d'entre les morts. Alléluia! Et que nous allons être avec toi pour l'éternité. Alléluia! Quelle merveilleuse occasion ce matin que nous avons de te louer et de te bénir. Alléluia! Oh Seigneur, que tu bénisses cette parole à nos cœurs ce matin, que nous puissions tous, chacun de nous, encourager et que nous puissions garder dans nos cœurs cette grande espérance, Seigneur, que ça brûle en nous comme ça brûlait dans les disciples sur le chemin d'Emmaüs, que ça brûle en nous ce matin et qu'on puisse célébrer ton nom. Je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Et amen, avant de vous asseoir, dites à quelqu'un, il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Espoir extrême. Espoir extrême. Il y a un cantique que je ne connais pas, sans ça je vais vous le chanter, peut-être ça va vous bénir que je ne le chante pas ce matin, je ne le connais pas, mais je vais vous le lire. Et concernant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ça dit ceci, « Jésus-Christ est vivant, trésaillons d'espérance, pour le cœur repentant, voici la délivrance. Chantons, chantons l'hymne nouveau, gloire au vainqueur, gloire à l'agneau. » Jésus-Christ est vivant, Dieu visite la terre, c'est le soleil levant qui d'en haut nous éclaire. Gloire à son nom, louange, honneur à Jésus-Christ, le grand vainqueur. Jésus-Christ est vivant, notre foi n'est pas vaine, du péché dégradant, il a brisé la chaîne. Chante à mon cœur ta liberté, Jésus-Christ est ressuscité. Jésus vit désormais, qu'on l'aime et qu'on le craigne, c'est le prince de paix, bientôt viendra son règne. Règne éternel de vérité, d'amour, de justice et de bonté. Amen. Alléluia. Spécialement, je veux parler de ces deux choses-là qu'on mentionne dans la dernière strophe de ce cantique, qu'on l'aime et qu'on le craigne, qu'on l'aime et qu'on le craigne. Et l'apôtre Jean nous dit la crainte, en parlant de la crainte, il dit « la crainte n'est pas dans l'amour ». Dans 1 Jean chapitre 4, il dit « la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ». J'aimerais parler un petit peu de l'amour parfait et de la crainte. Et qu'est-ce que Christ est mort sur la croix? Et qu'est-ce que Christ a fait lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts? Quelle différence ça peut faire pour vous et moi aujourd'hui? L'apôtre Jean nous dit « la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Tu ne peux pas avoir un amour parfait ou un amour complet, si vous voulez. C'est ça que ça veut dire en réalité, l'amour complet, sans avoir la crainte de Dieu. Et le peuple de Dieu a la crainte de Dieu. Et important pour chacun de nous. Et dans les livres allégorique de C.S. Lewis, des livres qui s'appellent « Les chroniques de Narnia ». Je sais qu'il y en a peut-être quelques-uns qui ont déjà lu ces livres, mais vous avez la jeune fille, Jill, qui se trouve soudainement, miraculeusement, elle se trouve dans une forêt, et puis elle a très soif. Et elle voit un ruisseau, mais il a un grand lion qui est là. Il s'appelle Aslan. Et Aslan est entre le ruisseau et Jill. Et Jill hésite, elle a peur d'aller aller boire dans le ruisseau. Et Aslan, dans ses livres, le livre des chroniques de Narnia, représente Jésus-Christ. Et quoique sa soif est très forte, elle a une grande crainte. Une grande crainte du lion. Et elle a une peur d'être dévorée par lui. Le lion lui dit, « Si tu as soif, tu peux venir y boire. » Jill ne bouge pas. Elle demande à Aslan, elle dit, « Si je viens, promets-tu de ne me faire rien? » « Je ne promets rien, » dit le lion. Alors, dit Jill, « Je ne bouge pas d'ici. » Aslan lui dit, « Alors, tu vas mourir de soif. » « Eh bien, dit Jill, je trouverai un autre ruisseau. » Et le lion répond, « Il n'y existe pas d'autre ruisseau. » Alléluia. Et je veux vous dire aujourd'hui qu'il n'existe pas d'autre ruisseau que le lion de Juda. Et il est là pour nous. Et Jésus dit à la femme samaritaine, vous vous souvenez, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, c'est-tu vrai? N'aura jamais soif. Et alors, lorsqu'on vient à lui, et nous pouvons être absolument satisfaits. Et le même Dieu qui nous invite dans sa présence, le même Dieu qui nous invite d'entrer dans sa présence, s'attend aussi de nous un culte avec piété et avec crainte. L'importance de cela, Hébreux chapitre 4, verset 16, dit « Approchons-nous donc », c'est l'invitation, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Pas besoin d'avoir passé un trône, pas de jugement pour nous, mais un trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et nous venons, et également dans, un peu plus loin dans Hébreux 12, ça nous dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est comme le lion qui était là devant Jill, puis était dans une pavée, une sorte de crainte du lion. Avez-vous déjà eu, par exemple, votre maison qui prend feu? Il y a quelqu'un que vous avez béni parce qu'ils ont... leur maison a pris en feu, c'était une chose horrible, terrible à voir comme expérience, ou peut-être vous avez déjà été pris dans un feu de forêt, par exemple. Le feu est vraiment dévorant. Si vous connaissez ça, vous avez vu ça à la télévision sûrement, mais peut-être vous avez eu l'expérience d'un feu dévorant. Un feu dans sa puissance, la puissance d'un feu, la force d'un feu. Lorsque j'étais jeune, je m'en rappelle lorsqu'on a commencé un feu, moi et mon ami, dans un champ, et puis c'était dans un temps de sécheresse, et il y avait un vent, et soudainement, on a perdu contrôle, et le vent a parti, puis on a essayé d'éteindre le feu, on ne pouvait pas, puis on a couru de là, on a eu peur de ça, parce que le feu était tellement rapidement dévorait tout autour de nous. On a parti de là en courant. On n'a jamais dit un mot à personne. Je ne sais pas jusqu'à où le feu a été, mais on n'a pas dit un mot, même pas à ma maman. Je n'ai rien dit. J'ai eu tellement peur. Et alors, cette sorte de feu produit en nous une crainte. Et cela aussi produit en nous aussi un sens d'émerveillement. Lorsqu'on voit le feu, par exemple, on aime ça. Lorsqu'on va faire du camping, on aime ça faire un feu de camp. On va dire, hein, OK, on va faire un feu de camp. Et on fait un feu, et puis là, on met les chaises tout autour, on s'assit, puis on regarde le feu. Parce que c'est un feu dévorant. Mais il y a un émerveillement de voir un feu qui brûle le bois. Et on est là, puis on célèbre, on aime être ensemble, et on est tout autour du feu de camp. Mais en même temps, c'est un respect, n'est-ce pas? On respecte la nature d'un feu. On n'ira pas mettre notre main dans le feu. On se tient, puis des fois, si le feu devient trop fort, on recule nos chaises, parce qu'on a un grand respect pour la nature d'un feu. Quoique c'est un émerveillement, et les enfants aussi aiment tellement voir le feu qui est là. Alors, c'est un côté émerveillement, mais c'est un côté aussi de ce qu'on doit avoir un grand respect. Et alors, lorsque Hébreux chapitre 12 me dit que Dieu est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Ce n'est pas surprenant aussi de lire dans le même verset de lui rendre un culte agréable avec piété et avec crainte. Pour qui il est? Qui il est? Le Dieu tout-puissant. Et alors, la crainte de Dieu a deux facettes, si vous voulez, comme deux côtés d'une médaille. Vous avez avoir une frayeur, si vous voulez, une frayeur de qui Dieu est dans sa personne, et avoir une piété ou une dévotion qu'on veut se dévouer, se donner, se livrer pour Dieu. Ces deux choses-là, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, il y a la frayeur de Dieu, le fait que qui Dieu est, il est un feu dévorant, mais en même temps, une dévotion. On veut se livrer parce qu'il y a l'émerveillement de qui dans son caractère, de qui Dieu est. Alors, la première chose, ce serait avoir une frayeur. Regardons cette frayeur de Dieu. C'est absolument merveilleux, je dirais, de s'exhorter les uns les autres à propos de l'amour de Dieu. J'adore de prêcher sur l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu, et que Jésus est, même il a dit lui-même qu'il est l'ami des pécheurs. Et tout cela, c'est absolument, oui, amen, et vrai. Mais cela est seulement un côté de la médaille. Jésus n'est pas seulement un ami. Il mérite notre respect. Il mérite, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est le lion. Il est le lion de Juda. Et alors, nous avons cette grande crainte pour lui. Alors, le mot crainte dans la Bible ne veut pas seulement dire admiration ou avoir une grande révérence pour qui il est. Par exemple, lorsque Adam et Ève ont péché, vous vous rappelez, ils se sont cachés de la présence de Dieu. Vous vous rappelez, le Seigneur aimait parcourir le jardin, ça nous dit, vers le soir. Tous les soirs, le Seigneur venait pour s'entretenir, avoir une fraternité avec eux. Et dans Genèse chapitre 3, verset 10, ça nous dit, « J'ai entendu Adam qui dit, « J'ai entendu la voix, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » J'ai eu peur, il dit, « parce que je suis nu et je me suis caché. » La crainte était là. Et c'est certain que Adam ressentait plus que juste admiration pour Dieu dans ce moment-là. C'est beaucoup, c'est sûr qu'il ressentait plus que juste une grande révérence pour Dieu. Il avait peur. Ça nous dit qu'il avait peur. Dieu lui avait averti qu'il était pour mourir s'il mangeait du fruit interdit. Et alors, Adam, à cause de son péché, avait peur. Imaginez ça, avoir peur de Dieu. Je dirais, il devrait avoir peur de Dieu. C'est le grand lion. Mais nous ne craignons pas ce que nous ne savons pas. Quelqu'un qui a déjà dit cela, nous ne craignons pas ce que nous ne savons pas. Par exemple, un petit enfant peut toucher un poêle chaud. Vous savez, lorsqu'on avait anciennement un poêle à bois dans la maison, ça devenait très, très, très chaud. Je disais aux enfants, faire attention, c'est très chaud. Et alors, mais un enfant qui touche un poêle chaud, il le touche une fois. Hein? Après ça, c'est fini. Hein? Après ça, il va savoir. Il va savoir le danger. Il va savoir que ça brûle. Les gens qui ne connaissent pas Dieu d'une façon personnelle, d'une façon intime, n'ont pas une crainte de Dieu. Et vivent comme ils veulent dans la débauche, l'immoralité, n'importe ce qu'ils veulent faire, ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu d'une façon personnelle. Ils ne connaissent pas et n'ont pas la crainte de Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu ont une crainte de Dieu. Ceux qui connaissent d'une façon personnelle ont une crainte de Dieu. Nous voyons beaucoup de gens dans la Bible, par exemple, dans sa parole, qui avaient une crainte, une certaine crainte de Dieu et qui tombaient par terre devant la présence de Dieu. J'ai plusieurs exemples ici. Abraham, Moïse, Josué, Gédéon, Ésaïe, Ézéchiel, l'apôtre Paul, bien sûr, Jean dans l'Apocalypse a tombé sur sa face comme mort, ça nous dit. Il y avait une tremblement, la tremblette de prix lorsque Dieu était là devant lui. L'apôtre Pierre est un autre exemple. Pierre est un très bon exemple de la frayeur de Dieu et la dévotion pour Dieu qu'un chrétien a pour son maître. Et on le voit même dans notre récit de ce matin qu'on vient de lire. Jésus, voyez-vous, miraculeusement rempli de poissons les filets de l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi. L'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. L'épouvante l'avait saisi. Il réalisait qu'il était devant le Dieu Tout-Puissant. Il réalisait la grandeur, la force qui était là, la puissance qui était là, la présence qui était là. Et lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on a tendance à vouloir se mettre à genoux. On a tendance à pleurer, on a tendance à fondre, on a tendance à crier « Oh Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, n'est-ce pas? C'est-tu vrai? » Lorsqu'on entre dans sa sainte présence, wow! On ne mange pas la gomme à ce moment-là. Non, non. On est dans la présence de lui. Il y existe une frayeur de Dieu. Il est, sans doute, il est redoutable. Et lorsque Jacques l'a vu dans la chambre haute, il lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Seigneur et mon Dieu, parce que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et alors, ça existe parce que Dieu est redoutable. Il est redoutable et dans le cœur d'un enfant de Dieu, dans le cœur d'un humain, dans le cœur de chacun de nous, de l'imparfait, si on peut l'utiliser comme ça, ou nous décrire comme ça, dans le cœur de l'imparfait, à celui qui est parfait, on voit qu'il est redoutable. Il y a une crainte. Dans le cœur de celui qui est marqué, qui est pécheur, à celui qui est beauté, beauté indescriptible. On voit la différence. Dans le cœur de celui qui est contaminé, à celui qui est pur, absolument pur. Dans le cœur de celui qui est impuissant, à celui qui est tout puissant. Il y a une crainte de Dieu qui est déposée dans nos cœurs. Dans celui qui a une relation personnelle avec le Christ, la crainte de Dieu est déposée dans son cœur. Et le deuxième côté de la crainte de Dieu, c'est que ça nous amène à une dévotion pour Dieu. On vient et on l'adore. Comme on a chanté ce matin, comme on a référé à ceux qui sont autour, les anges qui sont autour du trône, les 24 vieillards qui sont autour du trône et qui adorent le Seigneur, qui louent le Seigneur. Et en tant que croyants, nous savons, sans aucun doute, nous savons sans aucun doute que nous pouvons vivre sans aucune crainte, sans aucune peur de la colère de Dieu. C'est, je crois, une assurance qui est gravée dans la parole. Je crois que c'est une assurance qui est gravée dans l'éternité que nous avons maintenant, en tant que croyants, nous avons sans aucun doute rien à craindre. Rien à craindre si nous connaissons le Seigneur personnellement. L'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons une certaine, un grand respect même. Ça nous dit dans notre récit qu'ils avaient été remplis de crainte, d'épouvante. Et on voit que il y a une certaine frayeur à cause de qui il est, qui Dieu est. Mais en même temps, nous avons une dévotion pour le Seigneur parce que Christ a payé notre dette. Et on peut le célébrer et des fois on va pleurer même, les larmes vont couler à cause de qu'est-ce que Christ a fait pour moi. Pour vous et comment est-ce qu'il nous a pardonné. Amen. Mais en même temps, Paul dit aux Philippiens, rappelez ce verset, qui dit ainsi, mes bien-aimés. J'aime ça. Je suis content qu'il a dit au début, ainsi, mes bien-aimés, parce que c'est vrai, on est bien-aimés de Dieu. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillé à votre salut avec crainte et tremblement. Amen. Christ a payé. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Christ a payé la dette. Mais nous travaillons notre salut, c'est-à-dire que nous perfectionnons, que nous travaillons, que nous faisons nos efforts pour marcher avec Christ et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui nous a donné pour nous aider à accomplir cela avec de travailler notre salut avec crainte et tremblement. L'apôtre Pierre aussi parle d'avoir la crainte de Dieu. Il dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Alors, la deuxième conception de la crainte de Dieu s'exprime dans notre respect pour lui, notre honneur pour lui. Nous honorons le Seigneur, la révérence que nous avons pour le Seigneur, notre émerveillement de lui, que nous sommes émerveillés par qui Jésus est. Voyez-vous, sa grandeur et sa majesté nous réduit à un émerveillement qui place notre focus non sur sa colère, non sur son jugement, mais sur sa gloire et sur sa sainteté. On regarde sa sainteté, on regarde sa gloire et nous sommes émerveillés, n'est-ce pas? Émerveillés qu'il est glorieux dans sa grande victoire que nous célébrons aujourd'hui. Et alors, il a payé cette dette. Conduisez-vous avec crainte et pendant le temps de votre pèlerinage. Et alors, on exprime notre grande révérence pour le Seigneur. Sa grandeur et sa majesté nous réduit vraiment à un émerveillement de ça. De qui il est dans sa gloire et sa sainteté. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, nous pouvons célébrer, nous pouvons chanter qu'il est ressuscité. Il est ressuscité dans toute sa gloire. Et alors, c'est ça la crainte de Dieu, vraiment, c'est trembler dans sa présence et être dévoué dans notre service. Trembler dans sa présence et dévoué dans notre service, les deux choses. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça avoir la crainte. Excusez, la crainte de Dieu. Le lion, comme Jill a vu Aslan, le lion, elle tremblait devant lui. Mais elle n'avait pas besoin de trembler. Mais elle tremblait quand même parce qu'il est tellement grand. Il est tellement puissant. Il est tellement infini. Il est tellement glorieux dans son amour. Pour nous, dans son œuvre qu'il accomplit pour nous. Et des fois, on a juste un clin d'œil, on le voit. On le voit avec l'œil de notre esprit. On le voit. Et on se met à pleurer, on se met à rire, et on se met dans la joie. Notre cœur est rempli pour sa grandeur et qui il est. Et alors, c'est la crainte de Dieu. Trembler de sa présence et dévoué dans notre service. C'est ça qu'on veut faire. Et si vous manquez ou oubliez toute la prêche et tout ce qu'on vient de lire, ne manquez pas ceci. Lorsque nous avons réellement la crainte de Dieu en nous, toute autre crainte décline. Lorsque nous avons la crainte de Dieu en nous, toute autre crainte diminue, toute autre crainte fond, toute autre crainte même, je dirais, disparaît. La grande crainte, si on peut appeler la crainte de Dieu la grande crainte cause les petites craintes de fondre. La grande crainte de Dieu cause les petites craintes que nous avons de fondre. Amen. Amen. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait pour chacun de nous. Cela veut dire que lorsque nos plus petites craintes sont absorbées par la crainte de Dieu, nos vies gagnent sécurité pour notre futur. Et la terreur d'un lendemain incertain disparaît. Ça disparaît, on n'a pas peur du lendemain. Parce que nos jours sont assurés, notre éternité est assurée. Dieu est là pour chacun de nous. Il a ressuscité d'entre les morts. Et parce qu'il a ressuscité d'entre les morts, eh bien, nous allons aussi ressusciter d'entre les morts. C'est pas juste ici. Excusez mon français, ici. C'est pas juste ici, mais c'est demain. C'est le lendemain, c'est l'éternité. Et on n'a rien vu, on n'a rien compris. La vie, si vous dites vous aimez la vie, lorsque vous allez traverser l'autre bord, vous allez dire, c'est à quoi ça? Parce que ça va être tellement, tellement différent. Et alors, c'est vrai, l'amour parfait bannit la crainte, c'est-à-dire l'amour parfait. C'est quoi l'amour parfait? L'amour parfait, c'est la crainte de Dieu. Et alors, la crainte de Dieu bannit toute autre crainte. C'est ça que ça veut dire. La crainte de Dieu, l'amour parfait, la crainte avoir Christ, la crainte de Dieu, l'amour parfait, accompli à la croix du calvaire, accompli dans le tombeau vide, bannit ma crainte. Bannit n'importe votre crainte ce matin, toute autre crainte. Christ est mort et a ressuscité d'entre les morts pour bannir votre crainte, votre peur, votre incertitude. Lorsque les autres craintes prennent priorité dans nos vies, c'est là que nous entrons dans la misère. C'est là qu'on a de la misère. Dieu doit prendre priorité au-dessus de toutes choses, spécialement nos craintes. On a chanté « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. » Amen. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Grand prédicateur Ravi Zacharias, qui est maintenant décédé l'année passée, mais il a dit ceci, « Plus qu'on vieillit, plus il en faut pour remplir nos cœurs d'émerveillement. Et seul Dieu est assez grand pour faire cela. » Le lion de Juda. Il est assez grand pour faire cela. Plus qu'on vieillit, il dit, plus qu'on vieillit, plus il en faut pour remplir nos cœurs d'émerveillement. Hein? C'est-tu donc vrai? Les gens essayent d'avoir des trilles aujourd'hui. De plus en plus. Et on cherche de plus en plus. On cherche, on veut plus, de plus, plus, plus. Mais c'est dur, c'est impossible de remplir nos cœurs d'émerveillement. Seul Dieu est assez grand pour faire ça. Seul Dieu peut remplir nos cœurs d'émerveillement. Et alors, je peux peut-être conclure avec ce que Salomon conclut à propos de la vie lorsqu'il dit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Crains Dieu. » Il observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Amen. Craindre Dieu, c'est une grande bénédiction pour vous et moi. J'aimerais finir avec une histoire qui va expliquer, j'espère que ça va expliquer ou illustrer ce que veut dire la crainte, la puissance de Dieu, si vous voulez, puis en même temps avoir placer notre espoir dans la puissance et la grandeur de Dieu. Imaginez ce matin que vous êtes au pôle Nord ou vous êtes dans le Nord, dans le Grand Nord à quelque part, et vous arrivez à une falaise dans une vue, avec une vue spectaculaire de montagnes et de glace et de neige. Et c'est tellement beauté, vous êtes votre cœur est rempli à cause de qu'est-ce que vous voyez. Je veux juste arrêter ici pour vous dire, quand j'étais, quand on restait au Yukon, à un moment donné, j'étais avec un couple sur un quatre roues, puis on a monté une montagne de ce qu'il restait, une montagne, puis il y avait la glace en haut de la montagne, mais on a monté. Monter, constamment, jusqu'à temps qu'on était juste quasiment au sommet de ce qu'était la neige. C'était l'été. Et puis lorsque j'ai regardé autour, je m'ai mis à pleurer à cause de la beauté de la création de Dieu. J'ai dit au couple, j'ai dit, est-ce que si vous voulez qu'on va dire un mot de prière? Parce que j'ai été émouvé, j'ai été touché de la grandeur de Dieu, qui Dieu est. Et c'est la même chose ici. Soudainement, il y a une tempête qui s'éclate. Et le vent est tellement fort. Imaginez que vous êtes là et le vent est tellement fort que votre cœur se remplit de crainte et vous allez tomber de la falaise. Et c'est, vous allez perdre votre vie. Mais au milieu de la tempête, vous remarquez une fente dans la glace où vous pouvez vous mettre à l'abri et vous allez dans cette fente. Ici, vous ressentez... une sécurité, mais en même temps, la tempête fait rage. La tempête autour de vous continue, mais vous avez une certaine sécurité. Là, vous êtes caché dans la fente. Et vous la regardez, vous regardez la tempête avec une sorte de, peut dire, plaisir tremblant. On peut-tu dire ça? Un plaisir tremblant à cause de la force qui est là. Au début, vous aviez peur que cette tempête horrible qui était pour vous coûtait votre vie. Mais ensuite, vous avez trouvé un refuge et vous avez eu espoir que vous étiez en sécurité. Écoutez, mais pas toute crainte a disparu de votre cœur. Seulement une partie a disparu. La crainte de perdre votre vie a disparu. Le reste a demeuré, le tremblement, la révérence, l'émerveillement que j'ai eu comme expérience sur la montagne, l'émerveillement, le sentiment que vous ne voudriez jamais être en rébellion contre une telle puissance comme ça. Ouais. Et alors, c'est de même pour Dieu. C'est de même pour Dieu, le lion de Juda. Wow! Il a vaincu le péché et la mort pour vous et moi ce matin. La crainte de Dieu nous laisse dans une place sûre au milieu de la tempête. Alléluia! Notre espoir transforme la crainte en émerveillement. C'est ce que ça fait. Notre espoir transforme la crainte en émerveillement. Et on peut bénir le Seigneur ce matin que c'est ça qu'il est en train de faire, c'est ça qu'il veut faire, c'est ça qu'il fait dans votre situation dans laquelle vous vous trouvez ce matin, dans la peine peut-être, dans la misère peut-être, ou que vous traversez une grande tribulation. N'importe qu'est-ce que c'est votre crainte, la grande crainte de Dieu va causer vos petites craintes de diminuer. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Parce que Christ est ressuscité pour vous. Amen. Je peux-tu inviter l'équipe de venir, s'il vous plaît? Et je termine avec ceci. C'est ce qui arrive lorsque Jésus-Christ a ressuscité d'entre les morts dans Luc chapitre 24. Luc 24 décrit le dimanche de Pâques. Amen! Nous sommes dans le dimanche de Pâques. Lorsque les anges ont dit aux femmes, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Les femmes ont changé leur frayeur en émerveillement. Lorsque les onze ont entendu leur histoire, ils ont pris ça pour des rêveries, mais ils ont changé leur incrédulité en émerveillement. Lorsque Pierre a couru au sépulcre dans notre récit, il a changé son incrédulité pour un émerveillement. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs ont changé leur découragement en émerveillement. Leur cœur brûlait lorsque Christ a apparu, ouvert leurs yeux. Ils ont changé leur frayeur et leurs épouvantes en émerveillement. Lorsque Jésus les a bénis et fut enlevé au ciel, ils l'ont adoré, ça nous dit. Ils l'ont loué et ils ont changé leur crainte pour l'émerveillement. Êtes-vous ce matin émerveillé par sa présence? J'espère. 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 Alléluia. Levons-nous ensemble ce matin. J'aimerais vous lire un autre petit cantique court qui dit ceci. Entends-tu monter le chant triomphal? Le Seigneur est ressuscité. Le merveilleux évangile pascal, le Seigneur est ressuscité. Le surlendemain du vendredi saint, le Seigneur est ressuscité. C'est la revanche du bon dimanche. Le Seigneur est ressuscité. Pour nous, quel gage dans ce message, le Seigneur est ressuscité. Amen, alléluia. Je vais le relire encore. Je vais lire la ligne et vous allez répéter, vous allez dire, le Seigneur est ressuscité. Êtes-vous prêts? Le Seigneur est ressuscité avec un émerveillement. J'aimerais que vous le dites avec un émerveillement. Le Seigneur est ressuscité. Le voici.